Bonjour Mathieu Nyongo, j'ai le plaisir de vous recevoir pour parler de votre roman Le Fardeau, paru aux éditions Mialet Barreau. Un roman que vous avez mis 20 ans à écrire, le temps qu'il vous a fallu pour mener l'enquête de votre généalogie. Le titre de votre livre, Le Fardeau, laisse entendre que ce que vous avez découvert n'est pas facile à porter. Et d'ailleurs, dès la couverture, on devine dans quelle direction nous allons partir. Quel est l'élément déclencheur qui vous a questionné au point de vouloir remonter le temps?
Bah, cet élément, il est venu à moi brutalement. C'est une révélation que nous a fait notre mère le soir du décès de ma grand-mère. Elle nous a réunis, on est quatre, deux frères et une sœur, et elle a dit, bah écoutez, voilà, en fait, j'ai été adopté quand j'étais enfant, quand j'avais 2 ans et demi. Bon, alors elle avait plus de 60 ans, moi plus de 23, et bah, j'ai voulu savoir, au fond, c'était quoi sa vraie famille biologique, quoi.
Est-ce qu'elle-même le savait?
Non, elle ne savait pas du tout. Et puis moi, je ne pensais pas que ça me prendrait 20 ans pour découvrir des choses aussi invraisemblables.
Elle n'avait jamais ressenti le besoin, d'après ce qu'elle vous a dit, d'aller creuser en fait de ce côté-là sur les 2 premières années de sa vie.
Elle se l'était interdit, parce qu'elle avait appris elle-même à 10 ans qu'elle avait été adoptée dans la cour de l'école. Et de 10 à 17 ans, elle devenait totalement folle. Elle me l'a dit comme ça, elle a dit, mais ça m'obsédait, c'était en train de détruire ma vie. Et donc à 17 ans, au lieu de détruire sa vie, elle a détruit son dossier d'adoption. Elle a pris la décision dès lors de dire, maintenant ma vraie vie, c'est avec mes parents adoptifs.
C'est d'aller de l'avant et quelque part ça se comprend aussi.
Ben, ça se comprend, mais il y a un moment pour ne pas savoir, et puis je crois qu'il y a un moment pour savoir.
Et vous allez apprendre, donc sur la couverture, on voit un enfant qui a un bracelet avec une croix gammée sur le poignet. Donc on apprend en fait que votre maman a grandi dans un Lebensborn. Qu'est-ce que c'est?
Ben, les Lebensborn, c'est des pouponnières qui ont été créées par les SS pour reproduire la race parfaite, la race aryenne, soi-disant aryenne, donc des gens blonds aux yeux bleus, et ils accueillaient des parents qui avaient ces caractéristiques physiques qui, comme vous le voyez sur ce plateau, sont exactement les miens, quoi, hein, puisque mon père est ivoirien. Donc c'était un choc absolument terrible et c'était quelque chose d'invraisemblable pour moi, pour nous.
Lebensborn, ça veut dire fontaine de vie. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'eugénisme se pratique à grande échelle en Europe et aussi aux États-Unis. Et vous donnez quelques chiffres dans le livre. Entre 1920 et 1939, 30 000 personnes ont été stérilisées aux États-Unis et 400 000 en Allemagne à cette période.
Oui, l'eugénisme n'est pas le propre de l'Allemagne nazie. C'est ça que le point important, c'est que les Américains le pratiquent. Les Français sont tentés par cela. Il y a des discours même du président Herriot, Édouard Herriot, qui était président radical socialiste, hein, sur la manière dont il faut traiter, par exemple, les handicapés mentaux. C'est quelque chose qui court, en fait, dans cette période. Simplement, les nazis, bah, poussent les curseurs le plus loin possible et commettent des crimes d'eugénisme, de stérilisation à grande échelle.
Vous dites qu'ils sont méthodiquement fanatiques et c'est vrai que quand on vous lit, c'est extrêmement glaçant. Des Lebensborn, il y en a aussi donc en Norvège, en Danemark, au Luxembourg. Entre 10 et 25 000 enfants ont grandi dans ces Lebensborn. C'est une fourchette qui est énorme, car le silence qui entoure ces enfants est énorme aussi.
Bah moi, nous, on a découvert ça il y a 20 ans, je ne savais même pas ce que c'était. Aujourd'hui, on en parle un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas parce que, effectivement, les SS ont détruit les documents qui sont relatifs à ces établissements parce que c'était des bébés, donc, où les enfants les plus âgés, à la fin de la guerre, avaient 5-6 ans. Donc, par définition, c'était difficile pour eux de parler. Et donc, ce projet est resté secret pendant très, très, très longtemps.
Et on vous suit dans vos découvertes, on apprend les éléments de l'histoire en même temps que vous. Le passé et le présent ne font qu'un dans votre roman. En parlant de votre grand-mère biologique, vous dites, quand je la rencontre, elle est plus jeune que moi. Plus tard, vous dites, je la connais bien maintenant. Alors, à quel point vous êtes-vous senti proche en empathie avec vos aïeux, vos aïeuls? Avez-vous le sentiment de vivre dans le passé pendant ces 20 ans de recherche?
Bah oui, il y a eu des phénomènes presque hallucinatoires, hein. J'ouvre le livre là-dessus. Je précise que c'est un récit, donc il y a des passages qui sont fictionnalisés. Je le signale à chaque
Oui.
fois, mais c'est la réalité. Encore une fois, c'est tellement invraisemblable qu'il faut le préciser, le redire. Mais j'avais une telle familiarité au fond avec ces personnages, et notamment celle que j'appelle ma grand-mère par le sang, Margit, qui est au cœur de l'enquête, que parfois j'avais l'impression de les voir, de les sentir, j'avais l'impression qu'ils me parlaient, j'ai eu une espèce d'apparition à un moment donné, totalement délirante, et à tel point que même ma compagne à un moment m'a dit mais il faut que tu arrêtes un petit peu, il faut que tu te calmes, il faut que tu arrêtes de penser à cela jour et nuit.
Vous étiez obsédé par cette histoire, par cette recherche.
Mais complètement, et puis du jour où le livre est sorti, ça s'est calmé.
Alors, la dernière grande partie de votre livre porte le prénom de votre fille Odile, avec qui vous avez une connexion particulière. Alors, que vous apporte aujourd'hui justement de connaître votre histoire et aujourd'hui de la transmettre, j'imagine, à vos enfants?
Vous êtes parti de là, vous avez parlé de fardeau. Le fardeau, c'est quelque chose qu'on transporte, qui est lourd, qui se transmet. Et justement, je voulais pas qu'il se transmette, je voulais qu'on l'ouvre ensemble, qu'on regarde ce qu'il y avait dedans et qu'on regarde ce qu'il y avait de douloureux et aussi de précieux, parce que dans le fardeau, on emporte aussi les choses qui sont importantes pour soi. Donc ce livre, je l'ai écrit d'abord pour ma mère, parce que je voulais qu'elle pardonne à sa mère naturelle. Moi, je connaissais un petit peu mieux son histoire que ma mère. Et en menant l'enquête, je me suis rendu compte que c'était une fille qui... Parce qu'elle était toute jeune, elle avait une vingtaine d'années pendant la guerre, a vécu dans une grande misère, a fait des choix qui sont certes mauvais, mais il fallait absolument que ma mère, pour être apaisée sur la fin de sa vie, puisse pardonner à sa mère. Et puis pour mes enfants, alors je parle de ma fille parce que les choses sont jamais simples. Ma fille, donc moi je suis métisse, comme vous pouvez le voir, ma fille est blonde aux yeux bleus. Donc c'est... Voilà, je voulais pas qu'il y ait des troubles d'identité qui puissent un moment surgir dans sa vie et dans celle de ses deux frères aussi.
Oui, parce que vers la fin du film, vous parlez d'épigénétique.
Pour l'instant.
J'ai dit quoi du film, pardon.
Merci.
Du livre. d'épigénétique. En fait, ce qu'on transmet à nos enfants, arrière-petits-enfants, sans s'en rendre compte finalement dans l'inconscient. Il y a des choses que les enfants font, mais finalement, en fait, c'est par rapport à un traumatisme vécu par le grand-père, l'arrière-grand-père. Et par exemple, enfin c'est fou, mais quand on connaît les premières années maintenant de la vie de votre maman, ensuite elle devient directrice de crèche. Donc rien que ça, déjà, je trouve que c'est pas anodin. Et dans cette crèche, elle souhaite qu'il y ait 14 lits, ni plus ni moins, on ne sait pas pourquoi. Et il se trouve que c'est le nombre de chambres qu'il y avait dans le Lebensborn où elle a grandi.
Ouais, ça c'est fou, c'est vraiment... Alors il y a plein de scènes assez troublantes, hein, plein de coïncidences qui n'en sont peut-être pas. Et j'ai un souvenir très très clair, très net... du fait qu'il y avait 14 lits dans cette crèche, elle me l'a confirmé, et qu'elle s'était battue pour qu'il y en ait 14. Il était question d'en faire plus, alors c'était une crèche privée en plus, donc pour elle ça pouvait être plus intéressant, si je puis dire, d'avoir plus d'enfants. Elle disait non, 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 il faut qu'il y en ait 14, il faut que ça soit comme ça. Donc en effet, vous avez plein de coïncidences, de plein de choses qui ramènent à ce passé, qui finalement n'est pas tellement du passé, qui est aussi du présent, vous l'avez dit dès le début, et... C'est ce que nous apprennent les dernières recherches en psychologie, en psychiatrie, en génétique aussi.
Oui, et c'était important d'aller creuser, parce que justement, si on se dit juste « votre grand-mère a abandonné votre mère à un Lebensborn », on peut s'imaginer plein de choses, mais en fait, c'est très complexe. Et c'est pour ça qu'il fallait tout un livre, justement, pour expliquer ce contexte, pas s'arrêter en fait, à ce qu'on découvre dans les premiers temps, mais comprendre pourquoi.
Il fallait comprendre pourquoi, et d'autant plus que, comme les choses, encore une fois, je l'ai dit, ne sont jamais assez compliquées dans cette histoire familiale, il se trouve que cette femme, Margit, était elle-même juive. Elle était elle-même juive. C'était une réfugiée hongroise qui avait gagné la Belgique dans les années 20. Et donc finalement, l'explication que moi je trouve, c'était plutôt pour protéger sa fille qu'elle a fait ça. Mais malgré tout, pendant toute cette enquête, pendant ces 20 ans, j'ai découvert ce qu'était aussi ce qu'on appelle maintenant un peu les zones grises. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des collaborateurs, qui n'étaient certainement pas des résistants, qui ont essayé de survivre. Et en essayant de survivre, ont fait des choix parfois catastrophiques et les ont payés parfois très durement. Ça a été le cas de ma grand-mère.
Et vos travaux donc, ont été poussés, très méticuleux. Vous citez à la fin de votre roman tous les ouvrages et toutes les personnes qui vous ont permis de découvrir... puis de relier les éléments historiques. Et au-delà de votre histoire, c'est aussi celle de tous ces enfants que vous racontez. Ça en aura certainement aidé d'autres.
Alors j'étais tellement obsédé par mes recherches, tellement compétent, si je puis dire, à la fin de celle-ci, que j'ai même corrigé des encyclopédies. J'ai corrigé une encyclopédie américaine de la Shoah qui se trompait dans la localisation d'un lieu. Donc je le raconte à la fin du livre. Je suis d'accord, c'est pas très humble, mais bon, j'étais un peu fier de cela. Mais c'est pour dire qu'effectivement, j'ai poussé les recherches extrêmement précisément. Et en effet, depuis la publication du livre, il y a des gens qui viennent me voir, alors à titre varié, mais notamment aussi sur la question du Lebensborn. Moi, il y a deux personnes qui m'ont dit, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de raconter l'histoire de mon père, dans les deux cas, c'était mon père. une dame dont le père a manifestement été enlevé en Slovénie, parce qu'il y avait aussi des enfants qui ont été enlevés, et un autre qui ne m'a pas donné de précision, mais qui est quasiment sûr que c'est l'histoire de son père qui racontait là.
Alors, on parle beaucoup donc de votre généalogie du côté de votre mère, mais de votre père aussi, on en parle, parce que votre fille, évidemment, pose énormément de questions, et donc vous racontez aussi comment ça se passe quand vous allez en Côte d'Ivoire, les fêtes qui sont faites pour les enfants. Enfin, ce côté-là de votre famille n'est pas oublié non plus dans le livre.
Ben non, parce qu'il est, c'est une composante entière, et puis ça permet aussi de tracer la biographie complètement invraisemblable de Abracadabra. Bon, je ne sais plus comment on dit le terme, abracadabrantesque, vous voyez, de cette histoire, de l'histoire de la vie de ma mère. Il y a une historienne qui a dit, mais c'est une des histoires, une historienne du XXe siècle qui a dit, c'est une des histoires les plus ahurissantes que j'ai jamais lues, parce qu'elle naît dans un Lebensborn, elle arrive en France dans des circonstances que je raconte qui n'ont aucun sens, et puis ensuite elle se marie avec un Ivoirien, vivant elle-même dans un petit village de l'Est de la France, faut vous présenter ça, elle arrive dans les années 60. Et après, elle part, elle, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la moitié de l'année, quasi, enfin, le tiers de l'année, elle le passe en Côte d'Ivoire. On l'appelle, dans le village où mon père a grandi, on l'appelle Mémé la Blanche. Donc c'est quand même, vous voyez, un destin quand même assez, assez incroyable.
Alors pour terminer cet entretien, j'ai envie de citer une phrase que vous dites à la fin sur la transmission, justement. Et puis bon, ça fait écho à beaucoup de choses aujourd'hui. C'est... Notre devoir est d'opposer au racisme toute la richesse inépuisable de nos identités multiples.
Oui, bah je pense que c'est une phrase qui malheureusement est d'actualité. Je vois partout s'hérisser des frontières sur des bases identitaires ou crypto-identitaires. Bah, j'ai envie de dire, lisez mon livre et d'autres et vous verrez toute l'absurdité de ce genre de choses. Et je pense qu'on vit bien mieux quand on s'ouvre à l'autre. C'est ça d'ailleurs même la richesse de la vie.
Merci beaucoup Mathieu Nyongo pour cet entretien.
Merci.
Donc Le Fardeau, publié aux éditions Mialet Barreau.
Merci à vous.